CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, le mercredi c'est visite guidée avec l'office de tourisme du Grand Rodez. Aujourd'hui on part avec Amandine, guide conférencière à la découverte des vitraux contemporains de la cathédrale de Rodez.
CFM, sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
Donc Amandine, on se retrouve.
Oui.
Aujourd'hui, on est en extérieur, enfin, pas longtemps. En tout cas, on n'est pas dans les studios.
Voilà.
Tu nous emmènes à la cathédrale de Rodez.
Oui.
Et pour visiter aujourd'hui.
Pour parler des vitraux contemporains de la cathédrale.
Contemporains, ils datent de quand ?
2006.
Ah oui, ils sont tout neufs.
Oui, tout neufs.
D'accord,
ouais.
Ils doivent être nickel.
Nickel.
On va voir ça ?
Voilà.
Et je te suis. Donc nous voilà dans la cathédrale de Rodez, où tu mets ta veste parce qu'il fait un petit peu plus frais que dehors.
Oui, voilà.
Et alors, ces vitraux contemporains, par où ils sont ?
Alors, ils sont dans le déambulatoire.
Déambulatoire.
Dans le cœur de l'église. Donc, on va commencer par le côté nord de ces vitraux.
Tu étais forte en course d'orientation ?
Non.
Ah bon, d'accord. Mais comment tu sais que c'est le nord ?
Parce que, non, en plus, je dis des bêtises, c'est pas le nord. C'est le sud. C'est le sud parce que l'est est là. Comme l'est est là, le sud est là.
Ouais, forcément.
Voilà.
Ça, c'est toujours pareil.
Voilà, voilà.
D'accord. Il y en a combien, d'ailleurs, des vitraux ?
7 vitraux contemporains, ouais.
Et 7, c'est un hasard ou pas ?
Oui, c'est complètement un hasard.
Ouais. Et ces 7 vitraux contemporains, ils ont été remplacés ou mis là, pourquoi ? Parce que les autres étaient par terre ou ?
Voilà, alors en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus de vitraux. Et c'était simplement des baies translucides en verre qui remplaçaient donc les vitraux moyenâgeux. Donc c'est en 2002 en fait que la DRAC Midi-Pyrénées a lancé un concours pour choisir un artiste qui serait capable de réaliser les verrières contemporaines.
C'est un seul et même artiste qui a réalisé les 7 vitraux.
Oui, Stéphane Belzer, qui est un artiste qui vit à Paris.
Un Parisien ?
Oui.
Bah, tu vas nous faire découvrir ça, on y va en avance. En direction de... Alors je ne sais plus si c'est le sud...
En direction du sud-est. Pour être précise.
D'accord. Ah bah tiens, pan, en voilà un.
Voilà, en voilà un. Alors déjà pour revenir un petit peu sur la commande, donc ici c'est un concours qui a été mis en place, voilà, donc un jury composé de spécialistes des monuments historiques, des arts plastiques, de l'évêque également, de l'architecte des bâtiments de France. Donc dans un premier temps, on va réunir 5 artistes et puis donc c'est Stéphane Belzer qui finalement sera sélectionné. Donc ça, la sélection, ça se passe en 2003. Donc c'est en février 2003 que Stéphane Belzer est choisi. Donc c'est un artiste qui vit entre Paris et la Suisse et qui a fait notamment l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc un parcours assez classique, mais c'est la première fois qu'il réalisait en fait des vitraux, puisque à la base c'est un peintre. Donc à l'issue de ça, il a fallu sélectionner un atelier pour la conception des vitraux en eux-mêmes. Donc c'est l'atelier Duchemin qui va être retenu, qui est un atelier parisien et qui a l'habitude de travailler aussi bien sur des vitraux très anciens, médiévaux, que sur des vitraux contemporains. Donc il maîtrise vraiment très bien la technique des vitraux, même les plus spécifiques et les plus anciens.
Alors, en dehors des motifs, voilà, ils ont quelque chose de particulier dans la réalisation. Ça n'a rien à voir avec les vitraux tels qu'ils étaient réalisés au Moyen-Âge, le verre et tout ça ?
Oui, alors déjà la coloration, la technique de la coloration peut être différente, puisque là souvent on a des couleurs qui sont soufflées directement sur le verre, selon ce qu'on veut donner, mais bon après ça c'est vraiment purement technique. Et puis surtout je dirais l'innovation, c'est sur les maintiens des vitraux, puisque sur les vitraux médiévaux, la plupart du temps, on a ce qu'on appelle des lignes de plomb. Voilà.
Ah oui, voilà.
Des lignes de plomb en fait, puisque chaque carré de verre est maintenu par des lignes de plomb. Et là, donc, on a une nouvelle technique qui fait qu'on n'a plus besoin de ces lignes de plomb et on va uniquement maintenir ce qu'on appelle les barlotières. Donc, les barlotières, ce sont ces petites barres, je dirais, transversales, hein, qui traversent la verrière et qui la maintiennent en place.
Premier vitrail, ici, ouais. Enfin pour nous en tous les cas, ça dépend après ça dépend par où on rentre. Alors, effectivement, ça me change de ce que j'ai pu connaître en visitant d'autres cathédrales.
Oui, déjà ces vitraux contemporains, le dernier a été placé exactement en novembre 2006. Donc ce sont des vitraux qui sont très récents. Alors ici on a une représentation de ce qu'on appelle l'arbre de Jessé. Ces vitraux contemporains, ce sont uniquement des scènes qui sont issues de la Bible.
Ah bah j'espère quand même.
Toutes, voilà, ouais. Toutes. Donc ici on a l'arbre de Jessé, donc en fait c'est la généalogie du Christ qui est représentée ici. Ce qu'on a tout à fait en bas, le personnage là qui se tient la tête entre les mains, ici c'est Jessé. c'est de lui que va partir toute la généalogie du Christ. Donc ça forme comme un arbre et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'arbre de Jessé. Et à l'intérieur de cet arbre, donc, on a différents personnages. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est de commencer par le haut, puisque tout à fait en haut, on a deux personnages nus qui se font face. Ce sont Adam et Ève.
Ah oui, d'accord, ok. Oui, ça y est, je les vois. Oui, de profil.
Tout à fait.
Alors sinon, le premier truc qui marque, ouais, c'est que niveau couleur, j'ai envie de dire, il s'est pas emmerdé. C'est du bleu de bleu, du rouge de rouge, de l'orange.
Voilà, voilà. C'est vrai qu'on a quand même une dégradation de couleur. Hein. En haut, c'est de l'orange. Ouais. Et en bas, c'est un rouge vraiment profond. Donc là, la ligne entre les deux, ouais, c'est ce qu'on appelle la couleur saturée, en fait. C'est le moment où la couleur va s'équilibrer entre l'orange et le rouge vraiment très, très sombre. La ligne qu'il y a entre les deux, là, ça, c'est ce qu'on appelle la couleur saturée. Sur cette verrière-là, hein, toutes ne sont pas rouges, vertes et bleues. Voilà, il y a d'autres verrières qui ont d'autres couleurs.
Et alors, donc, on voit alors, bon, voilà, un arbre, tu fais bien de me le dire, parce que moi, voilà. Donc, tout en haut, il y a Adam et Ève nus, voilà, de profil. En dessous, ce sont des personnes, il y a des rois, non, il y a des gens avec des couronnes.
Oui, en dessous, c'est Abraham et Sarah.
Ah, Sarah.
Tu les vois? Abraham et Sarah.
Moi, je m'appelle David, Sarah, ça me dit quelque chose.
Ah, bah oui, oui, et oui, oui. Complètement en dessous, donc effectivement, il y a deux personnages qui ont des couronnes. Et là, c'est David et Salomon, qui sont les rois d'Israël.
Et David, c'est lequel?
Alors, David, c'est celui qui est sur la droite.
Tu trouves qu'il y a un air?
Enfin, franchement.
Oh, bah si, tu me mets une couronne.
Il manque la couronne.
Bah, voilà, c'est tout.
Et alors, tout à fait en dessous, mais qu'on voit pas très très bien, on les distingue à peine, on a deux autres personnages.
Ah oui, j'ai une dame qui a une drôle de tête.
Voilà, alors la dame qui a une drôle de tête, c'est Marie, et en face, c'est Joseph.
Il l'a pas loupé, la Marie.
Voilà, donc qui sont représentés ici. Et c'est vrai que sur ce côté de la cathédrale, on a quatre verrières qui représentent les quatre éléments. Et donc là, l'arbre, ici, c'est la terre qui est représentée avec l'arbre.
Quatre éléments, donc terre, air, feu, eau.
Et l'eau.
D'accord, donc on va voir les quatre.
Voilà.
Ils ont dû avoir un choc quand même à l'évêché, quand on leur a dit, tenez, ça sera la première, c'est particulier.
Oui, c'est particulier. Après, l'évêque faisait partie du jury. Voilà, donc il a pu donner son...
Non, il était peut-être pas là ce jour-là.
Je ne sais pas quel a été son avis, mais en tout cas, il faisait partie du jury. Bon, après, c'est sûr qu'il y a eu à l'époque pas mal de polémiques. Voilà, il y avait des personnes à qui ça plaisait, d'autres pas. Mais bon, voilà, c'est une vision complètement contemporaine.
C'est particulièrement lumineux.
Voilà, alors souvent, c'est ce que je dis quand on fait des visites, c'est que effectivement, même si on n'aime pas l'iconographie des vitraux, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils apportent beaucoup de lumière à l'intérieur de la cathédrale, contrairement aux vitraux beaucoup plus anciens, qui donc justement, sertis dans des lignes de plomb, ne font pas tellement paraître la lumière à l'intérieur.
Donc ça, c'était le premier vitrail, voilà, contemporain de cette cathédrale de Rodez.
Voilà. L'arbre de Jessé, oui.
L'arbre de Jessé, voilà. Parfait. On poursuit, voilà. Amandine? Ah, alors là, carrément autre chose. T'es sûr que c'est le même mec?
Oui, c'est le même Stéphane Belzer. Alors, quand on réalise une commande comme ça, évidemment, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un cahier des charges à respecter. Donc, dans ce cahier des charges, sur cette verrière-là, on lui avait commandé une verrière sur fond bleu qui représenterait le ciel. Donc ici, on a la représentation de l'air. Donc une verrière sur fond bleu qui représenterait le ciel et sur laquelle devait être installée une multitude de saints et d'évêques. Certains sont anonymes, d'autres peuvent être identifiés, trois particulièrement. Donc sur la verrière de gauche en bas, on reconnaît, quand on connaît un petit peu l'iconographie chrétienne, hein, Saint-Michel, qui terrasse le dragon de l'Apocalypse,
ah ouais,
qui est représenté ici. Sur la verrière de droite, on a au milieu un grand personnage qui tient sa tête entre ses mains.
C'est bien ce qui me semblait.
Voilà. Alors ça, c'est Saint-Denis. Donc Saint-Denis qui a été l'un des martyrs des premiers temps du christianisme, qui a été torturé par les Romains et qui a été décapité. Et la légende de Saint-Denis raconte que lorsqu'il a été décapité, il s'est relevé, a ramassé sa tête qui avait roulé au sol et s'est promené comme ça jusqu'au lieu de son tombeau.
Ah mais attends, ça me rappelle Annabelle l'autre fois, c'est pas Procule qui avait fait ça?
Ah, chez les filles. Alors Saint-Denis, disons que c'est un saint qui est très connu grâce à la basilique Saint-Denis qui est très, ouais, connue, hein, voilà. Donc c'est, je dirais, le plus connu de ces saints qui ont, entre guillemets, été décapités. Mais il y en a d'autres, hein, des saints beaucoup plus locaux qu'on va retrouver un petit peu dans toute la France et qui ont été décapités. Et on a un petit peu la même légende, voilà, sur ces saints-là.
Qui se remettait la tête en place.
Qui se remettait la tête, ouais, pas vraiment en place, mais bon voilà, qui se promenait avec la tête entre les mains.
D'accord, donc la fond bleue, tu l'as dit, puis les personnages, là, c'est de l'orangé.
Voilà, orangé, ouais. Alors tout à fait en bas, on a un autre personnage qu'on peut reconnaître, c'est une femme. qui a les cheveux longs détachés, qu'on confond souvent avec Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine est souvent représentée avec les cheveux longs détachés. Mais ici, ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Sainte Agathe. Alors, il y a un indice qui nous l'indique. Elle a ici les seins arrachés.
Ah, j'allais dire à l'air, moi.
Arraché, même plus qu'à l'air, arraché.
D'accord.
Voilà. Arraché, puisque Sainte Agathe, encore une fois, a été l'une des premières martyrs du christianisme. Donc, une femme très belle qui avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Eh bien, il y a un préfet romain qui va tomber amoureux d'elle, qui va vouloir se marier avec elle. Elle va refuser. Lui, pour se venger, va demander à ce qu'elle soit torturée et à ce qu'on lui fasse perdre sa beauté, notamment en lui arrachant les seins.
C'est pour faire plaisir.
Oui, non, franchement pas. Donc, bien sûr, elle va périr de ses blessures. Donc ça, c'est Sainte Agathe. Et là, on a une vision complètement contemporaine ici, puisque si on regarde de part et d'autre de la tête, on a les seins qui flottent.
Oh, oui, je les vois.
Voilà. Et donc ça, c'est aussi pour montrer l'air qui est représenté ici, l'élément air qui est représenté ici, puisqu'on a l'impression, justement, sur toute la verrière, d'avoir des éléments qui flottent.
Rappelle-moi le nom de l'artiste.
Stéphane Belzer.
Il est pas net, lui, hein.
C'est un artiste contemporain.
Ouais, bah, enfin bon, entre. D'accord. Bon, les seins qui flottent au-dessus de la tête de Sainte Agathe.
Voilà.
Très bien.
Donc on va continuer la verrière d'à côté.
Ouais. Ah, alors là, c'est. Ouh là là. Ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle, celui-là.
Il n'a pas l'air de représenter une bonne nouvelle. Alors là, c'est la représentation du feu.
Ah, oui.
Voilà, ouais. C'est la représentation du feu. C'est la chute des anges qui est représentée ici.
Ouais.
Alors, tout à fait en haut, on va retrouver le petit Saint-Michel, qui est quasiment identique à la verrière qu'on vient de voir,
ouais.
Qui va faire sortir les anges rebelles du paradis. Alors, c'est vrai que ce qui est assez peu connu, on parle souvent de le premier ange rebelle, c'est Satan.
Uh-huh.
Lucifer, puisque Lucifer était un ange.
Oui.
Voilà.
Ah non, mais je sais, il y a des trucs que je sais quand même, Amandine.
Puisque, alors voilà, Lucifer, en latin, exactement, ça veut dire « porteur de lumière ». Donc on disait toujours que Lucifer, c'était le plus brillant des anges, mais quelqu'un qui était très orgueilleux. Et à un moment donné, il a voulu, je dirais, supplanter Dieu. Donc à ce moment-là, Dieu va le punir et il va le chasser du paradis avec tous les anges rebelles qui avaient suivi Lucifer.
Il y en avait un paquet, hein ?
Il y en avait un paquet. Et c'est à partir de là, vraiment, donc on va parler de l'épisode de la chute des anges qui ont été chassés du paradis par Saint-Michel. Alors, on peut voir quand même qu'il y a une inversion des couleurs, puisque en histoire de l'art, la plupart du temps, enfin, alors je parle de l'histoire de l'art ancienne, pas contemporaine, on a toujours l'enfer qui est représenté en bas et qui est représenté en rouge, et le paradis qui est représenté en haut et en bleu. Et là, on a une inversion des couleurs. On a l'enfer qui est représenté en bleu, en bas, alors qu'habituellement c'est en rouge, et Saint-Michel qui est dans le rouge, qui traditionnellement le rouge symbolise l'enfer.
D'accord.
Donc on a une inversion des couleurs. Alors bon, il n'y a pas vraiment d'explication, peut-être simplement pour montrer une note d'espoir. D'ailleurs, si vous regardez certains anges, la plupart ont les bras qui se lèvent. Et souvent, bon, ça c'est encore la même chose en iconographie, quand les personnages ont les bras en l'air, c'est un signe d'espoir.
Ouais.
Alors que quand ils ont les bras en bas, c'est un signe, voilà, pour eux c'est terminé. C'est plutôt le grand désespoir, je dirais. Donc peut-être effectivement l'inversion des couleurs, plus le fait que les bras soient installés en hauteur, peut-être qu'il va y avoir une rémission pour ces anges rebelles qui pour l'instant sont chassés du paradis.
C'était donc le vitrail contemporain de la cathédrale de Rodez qui illustrait l'élément feu.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et la chute des anges.
Bon, très bien, on poursuit.
Voilà.
Alors là, celle-là, j'ai failli la louper. Enfin, celui-là de vitrail, j'ai failli le louper. C'est au-dessus de quoi d'ailleurs ? C'est quoi la pièce en dessous là ?
Alors, c'est la chapelle de la Réconciliation. Il y a une clôture, donc la clôture de chapelle qui est de style Renaissance et qui est très ouvragée, qui est magnifique sur cette chapelle-là.
C'est vrai qu'elle est très belle. Bon, donc au-dessus, alors là, on repasse dans du bleu, dominant bleu. Donc c'est l'eau.
Voilà. Donc ici, c'est l'eau qui est représentée. Alors, il faut préciser que sur cette verrière-là, c'était la seule verrière où Stéphane Belzer n'avait pas de cahier des charges. Donc ici, il pouvait représenter une baie ornementale de son choix.
C'est quoi ? C'est des bestioles bizarres ?
Alors déjà, comme on est dans un édifice religieux, il a quand même voulu rester dans le domaine du religieux.
Ouais.
Ici, on a une représentation de la Genèse. Donc quand on ouvre la Bible, la Genèse, c'est le premier chapitre, c'est en fait la création du monde.
Ah, voilà. C'est des genres d'embryons ?
Oui, on peut complètement dire ça en fait. Sur fond bleu, donc, qui représente l'eau, qui est la source de création, le premier élément source de vie, je dirais, on a une multitude de forme, et donc ce sont des êtres vivants au cours de leur formation. Donc certaines sont plus ou moins évoluées. Donc si on regarde sur la verrière de gauche, tout à fait en bas, bon, on voit très nettement un poisson. Donc lui,
je connais même son nom.
Ah oui.
C'est le poisson préhistorique à Colacrante.
Alors je sais pas si c'est un poisson préhistorique, mais
si, je suis sûr.
Ouais. Mais alors en tout cas, lui, il est né. Hein, il n'y a pas de souci. À côté, on a une forme orangée. Bon, on peut penser à une sorte de méduse. Mais après, c'est vrai que plus on monte en hauteur, plus on va avoir du mal à distinguer ce à quoi ces êtres vivants vont donner naissance. Par contre, il faut savoir que Stéphane Belzer ici s'est très grandement inspiré de son travail précédent, puisque Stéphane Belzer à l'origine était un peintre et il s'amusait à s'installer dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et dans ces réserves, eh bien, il y a une salle, ce qu'on appelle la salle des pièces molles. Et dans cette salle, en fait, il y a des bocaux dans lesquels est contenu, dans du formol, des organes d'animaux. Et donc lui, en fait, bien s'amusait à placer ces différents bocaux derrière une verrière pour que les bocaux voient la lumière traversée par la verrière. Et donc, en fait, c'est la lumière qui traversait les bocaux, qui l'amusait. Donc il y avait eu une exposition au musée de Denis Puech il y a quelques années où étaient exposées ses peintures. Et on comprenait là qu'en fait sur cette verrière, il s'était vraiment aidé de son travail précédent au Muséum d'Histoire Naturelle. Et alors lui, il s'amusait particulièrement à peindre, alors ça peut paraître bizarre, mais les organes génitaux des animaux. Alors pourquoi est-ce qu'il avait choisi ça? Parce qu'en fait, il explique que les organes génitaux d'animaux, ce sont des organes qu'on ne peut pas reconnaître. Autant si on voit par exemple un foie, on va reconnaître un foie, un cœur, n'importe quelle espèce animale que ce soit, on va plus ou moins le reconnaître. Mais les organes génitaux, comme ça, a priori, on ne peut pas reconnaître si on ne nous le dit pas que c'est un organe génital. Et ça, bon, ça, cette part de mystère un petit peu, ça l'a intrigué. Donc lui, il a décidé de peindre ça plus particulièrement. Et c'est son travail de peintre qu'on retrouve ici sur cette verrière là. Et alors après, tout à fait en haut, dans la partie hein, en pierre, alors on appelle ça le remplage exactement, on a des traces de couleurs, rose, vert, jaune, ça on le retrouve sur quasiment tous les vitraux contemporains de Stéphane Belzer. Ici on a la représentation de la pensée. Alors comment la pensée? En fait ici il s'est aidé d'une image radiographique du cerveau humain, c'est un IRM en fait. Donc ce qu'on voit là, c'est comme si on voyait les milliers de pixels hein, qui composent un IRM. Et c'est comme ça qu'il a pu créer ce qui est complètement immatériel, la pensée. On imagine la pensée divine, hein, puisqu'elle elle surplombe le vitrail.
Bon, donc là c'était l'eau. Voilà. On poursuit avec toi, Amandine. Elle était particulière celle-là quand même.
Oui.
Hein, ce vitrail-là. Bon, enfin bon. Ah, alors non, ça c'est pas contemporain.
Non. Alors ça, c'est les plus anciens vitraux de la cathédrale, de Vierge à l'Enfant. Il y en a une qui est datée sur la gauche de la fin du XIIIe siècle et l'autre sur la droite du début du XIVe siècle.
D'accord. Donc là, on poursuit dans le déambulatoire, tu disais?
Oui, voilà. Donc la partie hein, qui contourne le cœur, c'est le déambulatoire.
Voilà. Donc là, on est en train de faire demi-tour, en fait.
Voilà.
On arrive au bout. Ce sont, pareil, des vitraux anciens, voire très anciens.
Ancien, très ancien, pas forcément, parce que dans la cathédrale, mis à part la verrière, là, fin 13e, début 14e, les autres vitraux datent 18e, 19e, 20e.
Ok, allez, viens, on va chercher les nouveaux. Ah, voilà, là, on retombe sur du contemporain, très beau, celui-là, enfin, celui-là me plaît bien, moi. Ouais. Bleu ciel, avec, je sais pas, marbré jaune, moi, je dirais, mais puis tout en haut, là, c'est magnifique, le machin orange, tout en haut.
Ouais, alors ça c'est une partie qu'on appelle le remplage. Alors en fait, toutes ces petites étoiles là qu'on voit, c'est une représentation du système nerveux en fait, qui est représenté ici.
Ah ouais, les neurones.
Voilà, les neurones, ouais, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc là, on a une verrière qui est complètement bleue et ocre jaune, où sont représentés six personnages, tout à fait en haut. Donc sur la gauche, on a Sainte Agnès. Alors Sainte Agnès qu'on va reconnaître puisqu'à ses pieds elle a un agneau.
Et petit agneau.
Voilà, un petit agneau. Et il est vrai que Sainte Agnès, encore une fois dans l'iconographie chrétienne, est très souvent représentée avec un agneau. D'ailleurs, si on regarde en dessous dans la même chapelle, il y a une sculpture, voilà, qui date du 19e siècle. Et on voit à nouveau Sainte Agnès qui a dans ses bras un agneau. Pourquoi un agneau? Tout simplement parce que Sainte Agnès était une martyre du christianisme et elle a été torturée alors qu'elle avait 12 ou 13 ans. Voilà, donc elle était très jeune. Donc comme l'agneau, c'est le symbole de la pureté par sa blancheur et par son innocence, c'est pour cette raison donc que l'agneau est associé à Sainte Agnès. Alors à côté, on a Saint Blaise sur la droite.
Ouais.
Saint Blaise, donc lui aussi qui a été torturé, hein, qui fait partie des premiers martyrs du christianisme. Alors lui qui est assez connu, souvent il est représenté avec un cochon, qui n'est pas là, mais souvent il est représenté avec un cochon parce que, ah si, il est en bas. Je l'avais même jamais vu, il est juste à ses pieds.
Ouais. Attends, parce que moi je le vois pas, moi, le cochon. Ah oui, oui, un petit cochon. Alors, oui, d'accord.
J'ai remarqué, d'accord. Tu vois, je dis ça, mais donc Saint Blaise qui est représenté avec son cochon, parce que là, bon, chaque saint a une petite légende. Hein. Ici, la légende raconte que Saint Blaise un jour avait fait rendre. Enfin, il y avait une vieille en fait qui avait un cochon et on avait volé le cochon à la vieille. Donc, on lui a fait.
À la personne âgée.
Oui, mais dans la légende, on dit toujours la vieille au cochon, donc pour ça je garde le mot. Voilà, donc c'est Saint Blaise qui lui a fait restituer son cochon, parce qu'en fait ce cochon c'était le seul bien de cette personne âgée. Donc voilà, c'est lui qui lui l'avait fait rendre, et c'est pour ça qu'il est toujours associé à un cochon, Saint Blaise. Alors après au centre, on a d'autres personnages.
Ça c'est quoi? C'est des évêques? Parce qu'il y a une crosse là, c'est un truc de pape ou je sais plus?
Ce sont des évêques. Voilà, ça c'est la crosse de l'évêque. Donc sur celle de gauche, il s'agit de Saint Amand, qui a été le premier évêque évangélisateur du Rouergue.
Oui, je sais, parce qu'Annabelle nous a fait visiter l'église de Saint Amand il y a quelques semaines.
Voilà, tout à fait. Donc vous connaissez déjà par cœur Saint Amand. Et sur la droite, donc, vous avez un autre évêque, Saint Martial. Saint Martial qui n'a pas été évêque de Rodez, mais évêque de Limoges. Et souvent, mais il avait pour habitude de partir sur les routes du sud et de s'arrêter à Rodez. Donc c'était quand même, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'était un évêque qui était vraiment vénéré ici à Rodez, dans la ville de Rodez, même s'il n'était pas évêque de la ville. Et en dessous, donc, on a deux autres personnages. Alors sur la gauche, il y en a un qui est coupé en deux.
Ben, c'est ça, oui, c'est ce qui me semblait, oui.
C'est Isaïe.
Coupé en deux dans le sens de la longueur.
Oui, coupé en deux dans le sens de la longueur. Donc ça, c'est Isaïe. Alors, Isaïe, en fait, c'était un prophète. Et donc, lui a été persécuté également par les Romains. Et donc là, l'histoire raconte qu'il s'était caché dans un tronc d'arbre cru. Donc, les gens qui le persécutaient ont fait abattre l'arbre. Comme il se trouvait dedans, il a été scié en deux en même temps que l'arbre.
Ah, dis donc. Non, mais des fois, c'est pas de bol. Hein.
Voilà, des fois, c'est pas de bol. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est représenté comme ça. Et à côté, vous avez un autre prophète, c'est le prophète Jérémie. Donc, ils sont représentés avec un livre.
Alors, un truc, Amandine, quand même. Là, sur les personnages représentés, ils ont pas de pieds.
Oui, ils ont pas de pieds.
Ils ont pas de pieds, ils ont pas de jambes.
Ils ont pas de pieds, ils ont pas de jambes, oui.
Ils flottent dans l'air.
Ils flottent dans l'air, j'ai pas d'explication à ça. Ouais, on a encore une fois un peu l'impression d'une suspension complètement dans les airs. Mais alors après, pourquoi ils n'ont pas de pliés? Je sais pas.
Moi non plus. Et juste, tu me disais les éléments. Là, c'est un élément ou air, terre, eau, feu?
Non.
Ou
non. En fait, les quatre éléments se concentrent du côté sud. Côté nord, on n'a plus d'éléments. Ouais, c'était uniquement sur le côté sud.
On a fait les quatre déjà là-bas?
On a fait les quatre. Voilà. Donc finalement, il nous en reste deux.
D'accord. Oui, c'est ça. 4 plus 2 plus 1, 7.
Voilà.
Ok. Donc celui d'à côté, c'est un ancien, très bien, avec des petites bergères, bon, voilà, on passe. Et bon, ah, on retombe sur du... un peu les mêmes couleurs que le premier là, du jaune au rouge, un genre de dégradé puissant.
Voilà, donc là on va encore avoir un dégradé effectivement complètement en haut. Donc on a la lumière, donc ici je dirais que c'est une représentation de la lumière divine qui va percer les ténèbres. Donc la lumière du paradis, la lumière divine qui va venir percer les ténèbres. Donc encore une fois, c'est un petit peu comme une note d'espoir, puisque les ténèbres sont percées par la lumière. Donc on peut imaginer que peut-être la lumière divine va venir sauver les âmes qui sont perdues en enfer. On peut l'imaginer.
On peut espérer, on attend.
On verra. En tout cas, ce qui est intéressant sur cette verrière-là, c'est que c'est cette verrière qu'a présentée Stéphane Belzer au concours. Puisqu'il fallait bien présenter quelque chose. Hein. Donc lui, c'est cette verrière-là qu'il avait choisi de réaliser. Et on retrouve un petit peu ces formes qu'on a vues sur le vitrail qui représentait la Genèse. Et qui sont issues de son premier travail de peintre au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Très bien, c'est peut-être mon préféré avec le bleu d'à côté, ouais, mais on verra à la fin, il en reste un.
Très belle couleur celui-ci.
Allez, viens, donc le dernier. Alors est-ce que ce sera le meilleur pour la fin? Enfin après, chacun ses goûts. Ah, je sais pas. C'est quoi, c'est des petites fraises? Ah non, c'est du sang.
Ouais, alors c'est des globules rouges en fait.
Ouais.
C'est des globules rouges et c'est le sang du Christ en fait qui est représenté ici sous forme de globules rouges.
Ah, ouais.
Voilà, donc vraiment comme un humain.
Sur un fond jaune.
Sur un fond jaune, voilà. Et si on regarde en arrière-plan, on a des mains.
C'est des trucs de sourds muets.
Tout à fait. C'est la représentation, en fait, des sept sacrements en langage des signes. qui est indiqué ici, et tout à fait en bas, le rond blanc, c'est l'hostie, une hostie qui est représentée ici.
Alors, il y a des grosses mains, des petites mains et les sept sacrements.
Voilà, les sept sacrements que sont le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, le mariage, l'ordination et l'extrême onction.
On pourrait essayer de deviner, mais c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné. Ouais.
Parce que même le mariage.
Ce sont vraiment les signes que font les prêtres, je dirais, hein, que font les prêtres lorsqu'ils célèbrent ces sacrements. En arrière-fond, il y a d'autres petites mains, donc ça, c'est le langage des signes.
Eh ben, parfait. Donc sept vitraux. Contemporain.
Sept vitraux contemporains, ouais, qui ont été donc placés en novembre 2006, voilà, pour le dernier vitrail qui a été placé.
Bon, alors finalement, ton préféré ?
Mon préféré, moi j'aime beaucoup celui qui est à côté aussi, qui représente la transfiguration, là, la lumière dans les ténèbres, les couleurs sont très très belles.
Ouais, moi aussi, avec peut-être le bleu d'avant, avec ceux qui n'ont pas de pied.
Ah oui, avec ceux qui n'ont pas de pied. Oui, oui, aussi, les couleurs sont jolies, ouais.
Bah, merci beaucoup, Amandine. Voilà. J'aurais appris donc et découvert ces vitraux contemporains de la cathédrale de Rhodes. On va ressortir, ouais. Parce qu'ici c'est très bien, mais il fait un peu frais. Hein, donc on va retourner au soleil, voilà. Il y a de belles lumières aussi aujourd'hui.
Oui, oui, voilà. Tout à fait.
Bon, merci, on se retrouve... Non, nous, on a terminé ou pas?
Nous, on a terminé.
Bon, tu vas nous trouver une petite visite supplémentaire.
On va voir ce qu'on peut faire.
Bon, merci beaucoup.
En attendant la semaine prochaine, c'est Annabelle, autre guide conférencière à l'Office de tourisme du Grand Rodez, que nous retrouverons pour une nouvelle visite des sites remarquables de la cité ruthénoise. I'm a bone to the apple of your body.